Sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Catherine Fruch en tout ça.
C'est l'homme de toutes les casquettes. D'ailleurs, il en a une sur la tête aujourd'hui, très jolie, très colorée. Il est écrivain, poète, traducteur, professeur et c'est aussi un habitué des longs courriers puisqu'il arpente de ses grandes jambes plusieurs continents. L'Afrique, où il est né, au Congo, au Brazzaville exactement, l'Europe et plus particulièrement la France où il a fait ses études et enfin l'Amérique où il enseigne depuis 2002. Bonjour Alain Mabankou.
Bonjour.
Alors ce n'est pas à deux cultures que vous appartenez, mais à trois. Comment vivez-vous cette multiplicité ?
Je pense que c'est une chance d'être né en Afrique, d'avoir passé une jeunesse également en Europe, puis aujourd'hui de vivre aux États-Unis. C'est une grande chance dans mon inspiration, dans ma façon de voir les choses, et aussi dans la tolérance, parce que on ne peut pas se dire un jour ouvert au monde si on ne va pas au monde. C'est pour cela que j'ai toujours ce sac derrière le dos. Je voyage, j'arpente, je traverse les océans, peut-être pour me retrouver.
Et c'est aussi une diversité qui nourrit votre imagination romanesque.
Oui, beaucoup, beaucoup, parce que l'Afrique est dans mes livres, dans mes romans, dans ma poésie, l'Europe également, l'Amérique petit à petit, puisque ça fait seulement, entre guillemets, 7 ans que je vis aux États-Unis. Donc forcément, j'ai une triple nostalgie, la nostalgie de la terre natale, le Congo-Brazzaville, la nostalgie de la France, le pays d'adoption, puis cette nostalgie de l'Amérique, un pays que je suis en train de construire aujourd'hui à l'intérieur de moi avec les Noirs américains, l'arrivée d'un président noir, comme on dit, et puis peut-être aussi le fait que c'est l'endroit dans lequel je me sens libre d'écrire tout ce que je veux sur l'Afrique et sur l'Europe.
Alors effectivement, rappelons à Alain Mabankou que vous écrivez depuis longtemps. On vous a découvert en 2006 avec Vers cassé, maintes fois récompensé. On vous a retrouvé avec Mémoire de porc-épic, qui vous a valu le prix Renaudot en 2006. Il y a eu un essai également consacré à James Baldwin. Et aujourd'hui, votre nouveau roman s'intitule Black Bazaar aux éditions du Seuil. Mais si j'ai bien lu, votre tout premier livre s'appelait Bleu, Blanc, Rouge. Alors est-ce que c'était déjà une déclaration d'amour à la France? Ou c'était un peu humoristique?
Oui, c'était le livre de la jeunesse, c'était le premier roman que j'avais publié en 1998. À cette époque, je parlais déjà de l'immigration des jeunes d'Afrique qui quittaient l'Afrique par aventure et arrivaient en France et tombaient dans ce qu'on pourrait appeler une France souterraine. Donc c'est un peu cette thématique. Ce livre pour moi est très cher parce que il cache la plupart des thématiques que j'allais exploiter plus tard, aussi bien dans Vers cassé, dans Mémoire de porc-épic, et Black Bazaar semble être comme le petit frère de Bleu, Blanc, Rouge. C'est le regard de l'immigré qui est en France, tandis que Bleu, Blanc, Rouge était le regard de l'immigré depuis le pays et qui arrivait en France.
Alors dans Black Bazaar, votre personnage principal surnommé Fessologue, parce qu'il aime beaucoup regarder le derrière des jeunes filles, aime beaucoup faire la fête, aime beaucoup danser. Alors ça tombe bien, parce qu'en sol majeur, c'est aussi un portrait musical. Donc nous allons tout de suite écouter votre premier choix, Saul Makossa de Manu Dibango.
Ongusa tanga, nelusa makosa.
Siaou. Yassa Makosa. Amuna yeye, Amuna yeye. Koma, Samakosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Ne Samakosa. Nika so.
Avec Madu Dibango, grâce à vous, à la Mabankou, et pour ce choix musical. Quelle est la place de la musique dans votre vie?
Mais la place de la musique, c'est aussi dans l'écriture, parce que j'ai toujours le sentiment que mes livres sont musicaux, mes livres font toujours danser. Rien qu'un petit refrain, une petite musique me pousse déjà dans un autre univers. Quand on prend l'exemple de cette chanson de Manu Dibango, Sol Makossa, c'est en 72 qu'elle a été diffusée. Alors à l'époque, j'avais 6 ans, mais ça correspondait aussi à l'époque où le Congo-Brazzaville avait remporté la Coupe des Nations d'Afrique, et chanté par un Camerounais qui, à l'époque, le pays était quand même déjà footballistique. Il venait de perdre la Coupe, et nous, on a pris cette chanson comme l'emblème de notre victoire. C'était une espèce de pied de nez, mais cette chanson est grande parce que même Michael Jackson aussi a dû picorer à l'intérieur.
Alors, puisque vous parlez sport, on va vous poser une question un petit peu personnelle. Écoutez.
S'il y a un match entre la France et votre pays d'origine, pour qui êtes-vous?
C'est une question délicate, mais je pense que l'avantage avec le sport, c'est que ce n'est pas la guerre. Alors le choix sera simple. Puisque j'aime les deux pays, la France et le Congo-Brazzaville, que le meilleur gagne. Je vais célébrer avec le pays qui va gagner, je vais compatir avec le pays qui va perdre. Comme ça, je serai toujours entre les deux pays.
Et si c'est une équipe américaine, vous vous sentez concerné, quel que soit le sport d'ailleurs?
Entre l'Amérique et le Congo, je pense que je souhaiterais quand même que le Congo gagne. Entre l'Amérique et la France, je souhaiterais que la France gagne.
Alors, vous parliez de votre enfance à l'instant. Une autre question pour en savoir un peu plus sur vous à la Mabankou.
Quand vous étiez enfant, quels étaient vos modèles ou vos idoles?
Ah, très 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 belle question. Quand j'étais enfant, j'avais pour modèle Mohamed Ali, le boxeur de l'histoire. C'est lui qui a inventé une espèce d'élégance dans la boxe. On s'identifiait à Mohamed Ali parce que en 1974, il était venu combattre avec Georges Fairman à Kinshasa, donc en face de mon pays, le Congo-Brazzaville. Et nous avons chanté cette espèce de refrain qui disait « Ali Bomaye ». Ali Bomaye, c'est-à-dire que nous voulions que Mohamed Ali puisse gagner. Et comme je m'appelais Alain, dans le quartier, on a commencé à m'appeler Ali. Donc il est resté mon idole éternelle. Et je suis fier d'avoir vécu 4 ans dans le Michigan, où actuellement Mohamed Ali vit toujours.
Donc le sport a une importance dans votre vie?
Très grande importance, mais je suis un mauvais sportif. Je ne sais pas.
Pourtant, vous en avez le physique. Vous êtes svelte, grand.
Ça, c'est le sport de salle. On est obligé à 40 ans passés, il vaut mieux prendre des précautions.
Pourquoi est-ce que vous avez quitté le Congo-Brazzaville pour venir en France?
Mais j'étais venu faire des études supérieures, puisque il n'y avait pas de cycle supérieur à l'époque en droit au Congo-Brazzaville, et que le gouvernement congolais offrait des bourses pour les étudiants qui le méritaient, pour aller terminer les études en Europe et rentrer un jour. Mais il se trouve que lorsqu'on arrive en Europe et que le travail devient obligatoire, puisque la bourse qu'on recevait était ridicule. Une fois qu'on avait payé les loyers, on n'avait n'avait plus rien à manger, donc on travaillait à côté et ça ne permettait pas forcément de faire les études. Il paraît que les étudiants gabonais étaient les plus nantis. Eh bien, nous cherchons des amis gabonais pour aller manger chez eux.
Donc vous avez fait vos études ici, vous avez même travaillé, vous étiez ingénieur, je crois.
J'étais juriste à la Lyonnaise des Eaux. Après mon troisième cycle en droit des affaires, je suis entré à Suez Lyonnaise où j'ai travaillé pendant 10 ans. Je voulais faire des études pour devenir avocat, mais malheureusement ou heureusement, j'ai vu que ma vocation d'écrivain l'emportait sur la lecture de code pénal et civil.
Et vous avez bien fait. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez une fascination pour Paris, pour la France, pour sa culture, son histoire ?
En gros, tous les jeunes du Congo-Brazzaville avaient ou ont une fascination pour la France. Tout simplement parce que je viens d'un pays où il y a le mouvement qu'on appelle la SAP, la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes. C'est-à-dire que les gens avaient érigé la France comme l'unité de mesure même de la réussite dans la société. Voir la France, c'était posséder la vérité. Donc, on pensait tous que la libération passait par le voyage en France, puis le retour triomphant au pays natal. On ne voyait pas que la France aussi avait sa misère, ses clochards, ses personnes qui mouraient en hiver, le problème de logement, de travail, d'immigration, tout cela on ne le voyait pas. Il y avait ce rêve, le propre d'un rêve c'est d'un jour de devenir parfois un cauchemar. J'ai tout fait dans mon existence que mon rêve ne devienne pas cauchemar, alors j'ai travaillé sur ce que peut-être la fatalité, entre guillemets, m'a donné, c'est-à-dire la création. Je pensais que la création était ce qui pouvait me sauver et qu'en littérature, il n'y avait pas de discrimination. Soit vous écrivez avec authenticité et la force qui est en vous, on est obligé de vous ouvrir le chemin et c'est ce que j'ai pu faire jusqu'alors.
On va vérifier si vous connaissez bien votre sujet à la Mabongo.
Mon Dieu.
Si vous deviez choisir un chapitre de l'histoire de France qui vous touche particulièrement, ce serait lequel ?
Waouh ! Je pense que ça serait, d'abord je verrais le général de Gaulle et son appel du 18 juin, tout simplement parce que le destin du général de Gaulle est lié à celui du Congo-Brazzaville, dans le sens où, pendant que la France était occupée, Paris était occupée, Brazzaville, ma capitale au Congo-Brazzaville, était la capitale de la France libre. On a tendance à oublier cette page de l'histoire, mais sachez, chers amis, chers compatriotes français, que vous êtes tous Congolais, que vous le vouliez ou non, parce que ma capitale, Brazzaville, était votre capitale pendant l'occupation.
Alors, je pensais que vous alliez me répondre, vous alliez parler d'une époque un peu plus ancienne, parce que vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les petits-fils nègres de Vercingétorix ».
Je pense, je pouvais retourner jusque là-bas, mais parfois je crois aussi que ce qui m'intéresse en Vercingétorix, c'est la version de la bande dessinée d'Astérix et Obélix, parce qu'il y a des choses qui ressemblent à mon enfance. La potion magique des druides ressemble un peu à ces gris-gris que nous autres, lorsque nous étions enfants en Afrique, on allait chercher sur le féticheur pour draguer une fille, pour gagner un match de football, pour être intelligent à l'école. On allait voir les sorciers et les sorciers nous donnaient cette potion magique. Parfois ça marchait, mais je ne sais pas si vraiment c'était cette potion ou bien notre volonté de toujours gagner.
Moi, je pense que pour vous, ça a marché aussi un petit peu. Alors, est-ce que vous aviez des fois des coups de blues quand vous étiez à Paris, étudiant, et que vous aviez un peu la nostalgie ? Est-ce que la musique, justement, vous aidait à garder le lien avec vos souvenirs d'enfance ?
La musique me permettait de garder le lien. Et le pire aussi, c'est que lorsque j'écoutais une musique, j'écoute... Que j'écoute Taboulet, que j'écoute Franco, que j'écoute cette musique, eh bien, ça me poussait dans une nostalgie. Et peut-être le blues, c'est ça qui a fait mon écriture également.
Alors, vous avez choisi aussi aujourd'hui Zao, un chanteur congolais, qu'on va écouter maintenant interpréter Corbillard.
Corbillard, tu m'amènes où, Corbillard? Corbillard, tu m'amènes où, Corbillard? Je t'amène au cimetière dans ta tombe. Je t'amène à mon barnier dans ta tombe.
je t'amène au cimetière, Père Lachaise. À part ton corbillard, fais-moi descendre, je n'ai pas encore payé mes dettes, je n'ai pas encore touché mon salaire, je n'ai pas encore fait mon mariage. Dis-toi, je tu es déjà mort, pourquoi tu parles? Tu es déjà mort, pourquoi tu bouges? Tu es déjà mort, pourquoi tu danses? Je t'amène.
Malaga Belena de Josephine, au revoir. Quand je pense à mon mari, surtout à mon épouse, et encore mes enfants, il ne faut pas vendre ma parcelle. Attention à ma voiture. Malaga Belena de tu te dégoûtes à la mer.
Voilà, Zao qui chantait Corbillard, vous disiez à la Mabankou, ça vous rappelait toute votre jeunesse. En même temps, c'est pas gay non plus comme titre Corbillard.
Oui, c'est vrai que c'est pas gay, mais ça représente même notre conception de la mort au Congo-Brazzaville, tout ce qu'on pourrait appeler la cosmogonie congolaise. Voilà un grand musicien qui est Zao, d'un talent, on sent en chantant que c'est quelqu'un qui chante avec les tripes du peuple congolais. Et nous, lorsque nous l'écoutions, c'est toute la conception de la mort qui était là. Que se passe-t-il à la disparition de quelqu'un? Que devient la veuve? Que deviennent les biens? Que sont devenus peut-être tout ce qu'on a pu amasser durant toute sa vie, et puis ces jaloux qui tournent à côté, les adversaires qui veulent prendre votre femme. C'est à la fois cocasse, tragique, sombre, mais c'est cela aussi le fait de la société. La chanson congolaise a toujours épousé les turbulences de notre société, et dans ce sens, je pense que Zao est un des plus grands poètes congolais que j'ai jamais connu, et je l'adore. Je pense que s'il nous écoute, eh ben, qu'il sache que je lui dis bravo et merci de toujours enflammer mon existence et mon inspiration. Il ne le sait peut-être pas, Zao, mais il est présent dans mon roman Vers cassé, où je reprend une de ses chansons sous l'art qui est chantée à l'intérieur de Vers cassé, et c'est quelqu'un qui peut être considéré comme un autre grand musicien du Congo Kinshasa qui s'appelle Lutumba Simaro et qui travaillait avec Franco Luambo Makiadi.
Alors après les nourritures célestes, les nourritures terrestres.
Mon Dieu.
Comme chaque samedi, vous faites vos courses au supermarché du coin. Quel est votre rayon préféré?
J'adore le rayon. Le rayon préféré, sincèrement, d'habitude, je vais toujours vers les saucissons, voilà, parce que j'aime bien les saucissons de différentes sortes. Donc, je traîne toujours de ce côté pour le faire. Et en général, malheureusement ou heureusement, j'évite toujours les supermarchés. Je préfère aller dans les marchés ouverts. J'en ai un lorsque j'habite à Paris. Je suis dans le 18e au marché de la Chapelle, et puis aux États-Unis à Santa Monica, il y a un marché à la 3e rue également.
C'est pour ça que vous avez toujours cette silhouette si svelte, parce que vous faites attention à ce que vous mangez. Alain Mabankou est aujourd'hui l'invité du magazine En Sol Majeur. On continue de découvrir sa personnalité, ses goûts, ses secrets, qui sait, et son programme musical dans quelques instants après le journal sur RFI.